École normale supérieure, savoir en multimédia.
Très bien, on va continuer donc cette série de conférences. Donc, je vais vous présenter une conférence dont l'intitulé est physique quantique et atomes froids. Donc, il s'agit en fait de parler un peu de ce qu'on fait dans une autre équipe du laboratoire Kessler-Brossel à l'École normale supérieure. Mais il s'agit au-delà de présenter, de vous donner un peu quelques éléments de la physique quantique, de son impact sur notre compréhension de la matière, avec l'exemple des atomes froids pour la manipulation des atomes. Donc la première chose que je voudrais faire, eh bien, c'est tout simplement revenir sur la notion d'atome pour préciser et voir ce qu'on peut faire avec ces atomes. Alors tout d'abord, il faut bien concevoir que la notion d'atome est aujourd'hui une notion qui est bien admise ou qu'on a bien assimilée. Il faut se souvenir qu'il y a un peu plus de 100 ans, eh bien, il s'agissait encore d'une notion très controversée. Ici, vous avez les photos de deux acteurs qui étaient totalement opposés sur la question. Marcelin Berthelot, chimiste, professeur au Collège de France, ne croyait pas du tout à l'existence des atomes. En revanche, Boltzmann, qui a fondé la thermodynamique statistique, donc qui s'est intéressé au passage du microscopique au macroscopique, lui était en revanche un atomiste convaincu. Donc tout ça pour dire que c'est une notion qui est récente entre guillemets. Alors rappelons tout de suite ce qu'est un atome. Un atome, eh bien, c'est un noyau accompagné d'un cortège électronique. Et ça a une taille typique. La taille typique, c'est 10 puissance moins 10 mètres, donc un 0,90 et un 1. Donc c'est d'accord, ça vous donne la taille typique ici d'un atome. Disons tout de suite que le modèle le plus naturel est naturellement le modèle planétaire, modèle que les gens considéraient donc fin 19e. Un modèle planétaire, il a des raisons fondamentales pour être un modèle intéressant a priori. Eh bien, c'est que la force électrostatique et la force de gravitation ont des propriétés qui se ressemblent beaucoup et même tellement que donc la force électrostatique, c'est celle qui va gérer donc, l'interaction entre l'électron et le noyau et qui pourrait expliquer, par exemple, des orbites elliptiques de l'électron autour du noyau. Alors, en revanche, il y a un petit problème. Alors, le petit problème, on le voit tout de suite sur la force de gravitation. Vous savez que la force de gravitation, c'est elle qui explique le mouvement du satellite, la Lune, autour de la Terre, mais c'est également celle qui explique le mouvement de la Terre autour du Soleil, etc., etc. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'échelle typique pour cette force, puisque entre la Lune et la Terre, donc vous avez une seconde, il faut à la lumière une seconde pour joindre la Terre et la Lune, il faut 8 minutes pour joindre le Soleil et la Terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échelle typique pour la force de gravitation. En revanche, pour les atomes, on sait parfaitement qu'il y a une échelle typique et que cette échelle typique, je l'ai donnée là, je l'ai rappelée là, elle est de 10 puissance moins 10 mètres. Et donc là, on est confronté à un problème, c'est la force a des ressemblances évidentes, par exemple sur la manière dont elle décroît, etc. Mais il manque une échelle de longueur typique. D'où vient cette échelle de longueur qui va vous donner en quelque sorte la taille d'un atome. Alors cette échelle de longueur, on va y avoir accès au début du 20e et de manière indirecte grâce aux travaux de Planck dont vous avez ici une photo. En effet, en étudiant les corps chauds, il est amené à introduire une nouvelle constante. Alors vous connaissez au moins une constante de la physique, qui est la vitesse de la lumière. Lui, il introduit une nouvelle constante qui lui permet de bien comprendre, enfin de mieux comprendre, enfin il faudra également l'appui d'Einstein pour éclaircir ce point de vue, mais enfin il est amené à introduire une nouvelle constante de la physique qu'on va appeler petit h, et qui va émailler ma conférence. Vous allez la voir réapparaître, et chaque fois que vous la verrez réapparaître, c'est parce qu'on aura affaire à un phénomène qui est vraiment purement quantique. Alors si maintenant vous prenez trois quantités qui sont la charge d'un électron, cette nouvelle constante, petit h, et la masse d'un électron, eh bien, vous pouvez construire une longueur qui va donc être une longueur caractéristique d'un atome. Cette longueur caractéristique, eh bien, vous l'avez immédiatement, elle vous donne ce qu'on appelle le rayon de bord, 5 10 puissance moins 11 mètres. Donc vous voyez qu'à l'aide de cette constante qui vient des travaux donc de Planck, eh bien, on arrive à définir une nouvelle échelle de longueur qui sera typique de celle des atomes. On sera également capable de définir une nouvelle énergie qui sera typique de celle des atomes. Alors les atomes, je disais qu'on connaissait donc leur existence. Ici, on arrive même à les voir directement à l'œil nu dans des expériences. Alors là, j'ai pris le cas des ions piégés. Les ions, c'est des atomes auxquels on a enlevé quelques électrons. Et en fait, grâce à des pièges de cette nature, il s'agit de pièges électrostatiques. Ici, je vous présente des photos de l'université de Innsbruck. On arrive à voir, en fait, on illumine ces ions, et ils réémettent de la lumière dans toutes les directions, et c'est cette lumière qu'on collecte. Et on arrive à voir, par exemple, ici, un atome unique, deux atomes, trois atomes. Ils sont organisés ici sous forme d'une chaîne. Donc ici, on voit directement les atomes un à un, par exemple dans cette expérience qui a été faite à l'université de Innsbruck. Pardon ? Non. En fait, ici il s'agit d'une détection optique. Ce que vous voyez autour, c'est simplement en fait le bruit sur la caméra CCD qui est utilisée. Hein. Donc on les voit pas. Non, on les voit pas. On en reparlera tout à l'heure. Donc une première conclusion intermédiaire, c'est que naturellement, bon, les atomes existent et d'autre part, ils ont une taille caractéristique et cette taille caractéristique, c'est la mécanique quantique qui nous la donne. Alors, une deuxième chose, c'est un peu un passage obligé ici pour vous expliquer le type de physique qu'on fait. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Alors là, ça mérite une petite introduction. Des comportements ondulatoires, eh bien, vous en avez tous côtoyé. Ici, il s'agit simplement en fait, d'une vague qui, voyez, attaque ici une ouverture et vous voyez l'émission ici d'ondes à la sortie de cette ouverture. Ça, c'est un comportement qui est typiquement ondulatoire. Si on avait deux fentes, j'ai malheureusement pas le film animé, mais enfin si on avait deux fentes, eh bien on verrait ici, vous voyez, il y a des zones noires, si je prends un plan comme ça, il y a des zones noires et des zones lumineuses reflétant des amplitudes plus grandes ou des amplitudes plus basses, et ce phénomène, on appelle ça des interférences. Alors Louis de Broglie, en 1923, pour sa thèse d'État, j'ai mis ici 1924, propose en fait la relation suivante, une relation qui est valable donc ici pour les particules massives, où il affecte ce qu'il appelle une longueur de De Broglie, qui est une longueur d'onde à tout objet matériel de masse petit m animé d'une vitesse petit v. Donc c'est-à-dire qu'il complète l'image d'onde qu'on a ou de particules. Il dit que finalement il y a un lien entre les deux. Alors le comportement ondulatoire de la matière sera mis, par exemple, en évidence juste quelques années après dans la célèbre expérience d'Avinson-Germer en microscopie électronique. Mais regardons tout de suite quelques ordres de grandeur pour voir où la mécanique, à quelle échelle la mécanique quantique va intervenir. Là, prenons l'exemple suivant. Imaginons que nos corpuscules, l'impulsion ici, c'est simplement la quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse, eh bien traverse donc une fente de dimension A. Comme la longueur d'onde de De Broglie, c'est une longueur, eh bien on va pouvoir comparer cette longueur d'onde de De Broglie à cette taille de fente. L'idée, c'est qu'on s'attend à ce que des phénomènes non classiques prédominent lorsque la longueur d'onde de De Broglie est plus grande que l'ouverture ou de l'ordre de grandeur de l'ouverture. Alors pour ça, eh bien, cela signifie qu'il suffit que la quantité PA sur H soit plus petite que 1. D'accord ? Alors on va regarder quelques exemples. Alors regardons quelques exemples. Si je prends un homme qui passe par une porte à une vitesse d'un mètre par seconde, j'ai pris quelqu'un qui est de 70 kg, eh bien, vous voyez que cette quantité qui devrait être de l'ordre de 1 si on voulait voir des effets typiquement quantiques, vaut 10 puissance 34, hein, 1 subi de 34 zéros. Donc clairement, eh bien, l'homme passant la porte a un comportement classique, la mécanique classique permet complètement. Comment il va passer cette porte. Si je m'intéresse à un globule rouge dans un capillaire, un globule rouge, une masse typique de 10 puissance moins 16 kg, une vitesse d'une dizaine de centimètres par seconde, à travers une ouverture ici de 100 micromètres, 100 micromètres c'est la taille transverse d'un cheveu, une taille typique, eh bien vous voyez qu'on est encore très loin, on est encore dans une physique totalement dominée par le comportement classique. En revanche, si je m'intéresse à un électron dont la masse est de 9 10 puissance moins 31 kg, la vitesse beaucoup plus élevée, typiquement 700 mètres par seconde dans cet exemple, à travers une taille, une fente micrométrique, eh bien, à ce moment-là, le rapport ici PA sur H est de l'ordre de 1, c'est-à-dire que la longueur d'onde de Broglie est de l'ordre de grandeur de l'ouverture, et à ce moment-là, on va observer des effets typiquement ondulatoires, et c'est ce qui a été observé dès 1927 dans cette expérience sur les électrons. Donc on retient ici l'idée suivante, et on va voir qu'on va pouvoir la moduler, c'est que la mécanique quantique, eh bien, c'est la physique des objets microscopiques. On va voir également, finalement, comment elle peut atteindre des échelles macroscopiques, et c'est, je dirais, un des grands enjeux de cette deuxième moitié du XXe siècle. Alors, également, sur le comportement ondulatoire, d'autres mises en évidence typiques, j'ai parlé de phénomènes d'interférence, eh bien, si vous prenez de la lumière, vous éclairez par des fentes dont vous avez compris maintenant qu'elles ont une dimension de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, c'est-à-dire ici la centaine 500 nanomètres ou un micromètre, à ce moment-là, vous allez avoir non pas l'ombre ici directe de ces fentes, mais le pendant classique, mais vous allez avoir un phénomène d'interférence compliquée. Donc pour la lumière, eh bien, il y a donc une longueur d'onde. La longueur d'onde, vous la connaissez, c'est elle qui définit la couleur. Il y a un corpuscule associé à cette longueur d'onde, eh bien, c'est un photon. Pour les atomes, ici, je vais vous montrer un film qui a été fait par le professeur Shimizu à Tokyo, où l'idée, c'est qu'on fait une expérience exactement de même nature. Ça nous permettra peut-être de mieux comprendre cette correspondance onde-corpuscule. On lâche un nuage d'atomes, ici, sur deux fentes. D'accord. On s'arrange pour que la longueur d'onde de Broglie des atomes soit de l'ordre de grandeur de la taille des fentes. Et ici, on a un détecteur qui permet de détecter les atomes un à un. Donc on va regarder maintenant le résultat de cette expérience. D'accord. Donc, alors normalement, ça doit marcher si je fais ça. Voilà. Bien, donc là, on voit en fait sur le détecteur les atomes arriver un à un. Il s'agit ici des petits points blancs. Donc là, on a l'impression qu'ils arrivent complètement au hasard. Et en cumulant plus de 3 heures de données, voici donc le résultat qu'on obtient. Donc ces atomes ont leur caractère corpusculaire que vous voyez ici très nettement dans la détection. Il s'agit de points parfaitement localisés. Néanmoins, ils ont un comportement ondulatoire, c'est-à-dire que je ne peux pas déterminer précisément où ils arrivent, mais je peux déterminer la répartition grâce à une formule ondulatoire, c'est-à-dire la probabilité d'arriver à un endroit donné est donnée par le caractère ondulatoire de ces atomes. Donc ça, c'est le résultat d'une expérience qui montre cette dualité onde-corpuscule pour les atomes. Bien. Voici pour cet aspect. On retiendra que les atomes ont une double nature, particulière et ondulatoire. Alors, la température. La température, mon collègue et ceux qui étaient à la conférence précédente en a déjà un peu parlé. Puisque je vais parler d'atomes froids, il convient un peu de faire un rappel sur la température. Je crois que c'est dès la fin du XVIIe siècle, physicien a l'intuition qu'en fait la température, eh bien, elle est bornée inférieurement, c'est-à-dire qu'il y a une température absolue et c'est le zéro. Alors le zéro absolu, vous en avez entendu parler, c'est moins 273,15 degrés Celsius. C'est ça qui définit l'échelle des Kelvin, et donc l'échelle des Kelvin qui part à ce moment-là de zéro. Hein, et qui remonte ici. Alors, donc, vous avez différentes échelles. Ici, l'eau qui boue là-haut, le glaçon. J'ai remis ici, pour l'eau, les différents comportements de l'eau, précisément. Donc, vous les connaissez. Eh bien, au-dessus de 100 degrés, vous avez la vapeur d'eau. Si vous descendez, et alors ça, c'est à pression ordinaire, vous avez un liquide. À 0 degré, en dessous, vous avez un solide, d'accord. Donc il y a l'idée que avec la température et en diminuant la température, il y a des nouvelles phases qui apparaissent de la matière. Et ces nouvelles phases, eh bien, plus on va baisser en température, plus il va s'agir de phases ordonnée. Alors comment définit-on la température? Eh bien, on va la définir en termes d'agitation. Par exemple, à l'état solide, eh bien, vous savez qu'un solide est un réseau. Les atomes sont organisés sous forme d'un réseau bien ordonné. Eh bien, la température sera l'amplitude sera relative à l'amplitude d'agitation de ces atomes autour de leur position d'équilibre. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour un gaz, comment on va définir la température? Eh bien, ici, donc, les atomes, je les ai représentés par des petites sphères. Et la température, ce sera la dispersion des vitesses représentée ici par des flèches dans toutes les directions et de grandeur plus ou moins grande. Donc ça veut dire que si je représente ici mes atomes en fonction de la vitesse, eh bien, j'ai une dispersion. J'ai peu d'atomes qui ont une vitesse quasiment nulle. J'ai des atomes qui ont une vitesse moyenne qui est bien définie. Et j'ai peu d'atomes qui vont extrêmement vite. Alors pour vous donner des ordres de grandeur, eh bien dans cette pièce, la vitesse ici centrale serait de l'ordre de 300 mètres par seconde. D'accord, c'est la vitesse du son. Et la largeur est également de cet ordre de grandeur, grosso modo. D'accord. Alors il faut bien comprendre que si je refroidis un gaz, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que la largeur de cette courbe va diminuer. En effet, si tous les atomes vont dans la même direction, ils ont la même vitesse, à ce moment-là, on dirait que le gaz a une température nulle, parce que ce qui compte, c'est la dispersion, donc c'est le fait qu'on ait des flèches qui aillent dans tous les sens et de tailles différentes. Donc c'est ça la notion d'agitation ici dans un gaz. Alors comme on était intéressé par les atomes à température nulle, rappelons ce qui se passe à très basse température. Alors, je dis ici que la question ainsi posée est en fait insuffisante, il faudrait parler de la pression. Néanmoins, il n'est pas faux de dire que presque dans tous les cas, la matière est à l'état solide à très 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 basse température. Cette notion de très 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 basse température, nous allons la préciser. Il y a toutefois deux exceptions notables sur lesquelles on va revenir lorsqu'on fera un petit bilan historique des basses températures tout à l'heure. Il y a le cas de l'hydrogène polarisé, qui reste gazeux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé en fait assez tardivement. C'était un article en 1976 de Stollet et Nozano, et on va voir qu'il a eu une importance capitale pour le domaine de recherche que je voudrais vous présenter. Il y a également le cas de l'hélium, qui reste liquide, mais qui présente des propriétés très surprenantes, baptisées superfluidité. Alors, si je présente les choses comme ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi, quand je vais parler d'atomes froids, je vais parler de température extrêmement basse et je vais vous dire qu'il s'agit d'un gaz. Alors, a priori, c'est en contradiction à ce que je vous avais dit avant, surtout si ce n'est pas des atomes d'hydrogène pour lesquels on sait qu'ils vont rester sous forme d'état gazeux. Dans les expériences qu'on fait, les températures sont inférieures à 0,00001 degrés au-dessus du zéro absolu. Elles sont même plus petites, voire nettement plus petites que ça. Néanmoins, les atomes sur lesquels nous travaillons, rubidium, césium, sodium, hélium, etc., qui sont a priori solides à ces températures, eh bien, on arrive à les garder à l'état gazeux. Alors, il faut comprendre qu'il s'agit de situations métastables, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'état stable pour ces éléments. L'état stable, ce serait un état solide, mais on arrive à les garder dans cet état gazeux pendant des durées raisonnables, plusieurs minutes, on va dire, pour donner une ordre de grandeur. Et ça, c'est une propriété de ce qu'on appelle métastabilité. On arrive à garder cette stabilité. Donc il ne s'agit pas d'état complètement stable de la matière, mais on a le droit d'aller travailler avec ces états-là. Bien. La conclusion sur les températures, et notamment les basses températures, c'est que les systèmes denses, donc les systèmes liquides, solides, eh bien, à basse température, il n'y a que l'hélium qui reste liquide. Au niveau du solide, c'est tout le reste. Tout le reste est solide à, disons, température nulle ou quasi nulle. Il y a le cas particulier de l'hydrogène polarisé qui, du dense au dilué, restera sous forme gazeuse. Et enfin, il y a le cas d'éléments qu'on peut maintenir de manière métastable dans une phase gazeuse. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Alors, il faudrait quand même motiver un peu notre recherche pour aller toujours vers des températures beaucoup plus froides. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et maintenant, on a tous les ingrédients pour le faire. En effet, considérons un gaz, et désormais je ne m'intéresserai plus qu'au gaz, eh bien la distance entre particules, ça va être une échelle typique qu'on va avoir, une échelle de longueur typique qu'on va avoir dans un gaz. Et je vous ai dit que ce gaz est constitué d'atomes, et que ces atomes, eh bien, ils ont une nouvelle longueur que donnée par la mécanique quantique, la longueur d'onde de De Broglie. Et donc, finalement, on a deux échelles de longueur qui sont en compétition. L'idée étant la suivante, c'est que si la longueur d'onde de De Broglie est très petite par rapport à la distance interparticulaire, eh bien, c'est le comportement corpusculaire qui domine. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on peut raisonner pour ces atomes comme s'il s'agissait de billes, et là, on retrouve le dessin que je vous ai présenté tout à l'heure. En revanche, quand on diminue la température, on augmente la longueur d'onde de De Broglie. Donc même si on garde la distance moyenne entre particules identiques, eh bien la longueur d'onde de De Broglie augmente. C'est ce qu'on représente ici par ces vaguelettes pour représenter un comportement ondulatoire typique. Donc vous voyez ici, on baisse la température, on a un thermomètre. Et notre grande motivation, c'est la suivante. Einstein, 1924, prévoit une transition de phase qu'on appelle condensat de Bose-Einstein, lorsque, grosso modo, la longueur d'onde de De Broglie est de l'ordre de grandeur de la distance interparticulaire. Et à ce moment-là, une fraction macroscopique des atomes qu'on va considérer dans ce gaz, eh bien, seront représentés par une même onde. Et c'est ça, le condensat de Bose-Einstein. Il s'agit d'une transition de phase. On a parlé de transition de phase lorsque je vous ai dit... J'ai parlé de l'état solide, de l'état liquide, de l'état gazeux. Ici, il s'agit d'une nouvelle phase de la matière, d'un nouvel état de la matière purement quantique. Alors, le principe de la condensation, il est là. Si vous mettez des atomes dans un gaz, donc au-dessus d'une température critique, donc il y a une température, de même qu'il y a une température pour le passage du liquide au solide, eh bien, il y a une température critique, donc au-dessus de laquelle le comportement ici est gazeux. Les niveaux d'énergie accessibles aux atomes ici sont représentés. J'ai représenté quelques atomes dans cette boîte. Et en dessous de la température critique, eh bien, une majorité d'atomes vont être dans l'état fondamental, l'état de plus basse énergie que peut offrir le système. Et alors, ce qui est tout à fait remarquable, en fait, c'est que l'énergie échangée par des atomes lors de collision est beaucoup plus grande que la distance entre les niveaux d'énergie accessibles. Néanmoins, il y a une fraction macroscopique d'atomes qui reste cumulée dans l'état fondamental. Donc, c'est un effet qui est hautement non trivial. Et Einstein, dans un courrier à son collègue physicien Ehrenfest, avait écrit, il s'agit naturellement d'une traduction, « Cette théorie est bien jolie, mais contient-elle quelques éléments de vérité ?» Et c'est ce qu'on va voir maintenant et nous permettre de parler un peu de l'histoire des basses températures. Donc vous comprenez une des motivations majeures d'aller chercher toujours des températures beaucoup plus basses, parce que cette fois-ci, l'idée c'est qu'on va parler de systèmes macroscopiques en quelque sorte, mais dominés par la mécanique quantique. Tout à l'heure, je vous ai parlé de systèmes microscopiques, quand on regardait la taille d'une fente par rapport à une longueur d'onde de De Broglie. Donc là, il s'agissait de phénomènes à une échelle microscopique, donc dominés, comme on l'attend, par la mécanique quantique. Ici, on va parler de phases macroscopiques, et qui néanmoins ont un comportement dominé par la mécanique quantique. Alors, quelques dates. Bien sûr, l'histoire des basses températures est émaillée de nombreux événements, de nombreuses expériences. Retenons quelques dates clés pour voir que cette physique a traversé en fait tout le XXe siècle. 1908, c'est la première fois qu'on liquéfie le gaz d'hélium-4 en dessous de 4,2 Kelvin par des méthodes cryogéniques standard, pour votre frigidaire en amélioré. En 1912, en plongeant des conducteurs électriques, on observe, c'est le même groupe à Leiden aux Pays-Bas, ils observent qu'il y a une résistance, la résistance du conducteur chute de manière dramatique. Ils découvrent sans le savoir la supraconductivité. Ensuite, en 1927, ils continuent à baisser la température. En baissant la température, ils se rendent compte qu'en fait l'hélium liquide existe sous deux. C'est un peu comme s'il y avait deux liquides complètement différents, dont on va étudier
les propriétés ensuite, les 10 années suivantes.
de multiples expériences seront menées et permettront de voir des effets vraiment très curieux, disparition de la viscosité, une conduction parfaite de la chaleur, etc. etc. Beaucoup de noms sont associés à tous ces travaux, Capizza, Allen, Misner, etc. Donc on découvre en fait des comportements assez curieux, mais ces comportements donc, qui cette fois-ci sont macroscopiques, comme la conduction électrique, ou le comportement d'un liquide. Et ces comportements, en fait, eh bien, la question qui s'est posée, enfin, qu'a posé en fait Fritz London alors qu'il fuyait l'Allemagne nazie et qu'il était à l'Institut Poincaré juste en face en 1938, eh bien, dans un article qu'il soumet à Nature, il écrit la chose suivante, donc je vais vous le traduire. On a toujours un peu considéré donc, la dégénérescence de Bose-Einstein, disons le condensat de Bose-Einstein, comme une chose un peu, comme quelque chose qui avait une réputation d'avoir une existence un peu imaginaire. Néanmoins, il est dur de ne pas imaginer qu'il n'y ait pas un lien entre la condensation de Bose-Einstein et ici l'hélium superfluide. Alors qu'est-ce qui motive en fait London pour faire cette remarque? C'est la chose suivante. Lui, il prend la formule qu'a établie Einstein pour la température critique et il trouve une température qui est très proche des 2,17 Kelvin en dessous de laquelle il devrait y avoir condensation de Bose-Einstein. Alors bien sûr, London... ils réalisent bien qu'en fait un liquide c'est pas du tout un gaz parfait qui était l'hypothèse d'Einstein et on sait que le nombre d'atomes qui pourraient être condensés est inférieur à 10% mais qui les interactions dans un liquide jouent un rôle fondamental. Néanmoins il pointe le doigt sur quelque chose d'important, c'est le lien avec la condensation de Bose-Einstein. Maintenant on pourrait relire ça à l'aune de la physique moderne, la supraconductivité. On peut dire que c'est la superfluidité des charges électriques et cette superfluidité, elle repose sur la condensation de Bose-Einstein. On en a d'autres exemples dans la physique nucléaire, physique des noyaux, ou en astrophysique, dans les étoiles à neutrons, etc. Et depuis 1976, donc rappelez-vous, 1976, c'est la date où Stolley et Nozano disent que l'hydrogène polarisé doit rester gazeux. À ce moment-là, on se dit, voilà, l'hydrogène, c'est l'atome le plus simple, il reste gazeux, on va essayer de baisser la température, et si on baisse la température, on va peut-être réussir à réaliser le modèle d'Einstein. Et donc, il y a eu une très grande émulation donc dans plusieurs équipes du monde pour essayer de travailler sur l'hydrogène et refroidir l'hydrogène atomique. Ensuite, viendront en fait des méthodes aussi de refroidissement mises en place sur d'autres atomes, le lithium, le sodium, potassium, rubidium, césium, hélium métastable, etc. On pourrait fournir d'autres exemples où la condensation de Bose est impliquée, par exemple dans les semi-conducteurs. Alors, donc ces condensats, les condensats réalisés sur des gaz ont été obtenus, ça a été un événement remarquable, ont été obtenus en 1995, soit assez récemment, soit 70 ans après la prédiction d'Einstein. Ici, vous avez la température critique en dessous de laquelle ces condensats apparaissent. Là, vous avez des images qui sont typiques dans notre domaine, où ici, vous voyez un gaz typique, et là, vous voyez un pic qui sort. Vous voyez, ici, vous voyez plus que le pic, qui est ce condensat de Bose-Einstein, cette nouvelle phase de la matière. Alors, ça a été vraiment une émulation très, très forte dans toute la communauté de physique atomique. Ces images viennent du groupe de Carl Wieman et Eric Cornell qui l'ont obtenu en mai 1995, si ma mémoire est bonne, et Wolfgang Ketterle en septembre 1995. Alors, les trois auteurs ces expériences ont obtenu le prix Nobel dès 2001, donc tout récemment, pour avoir donc réalisé un condensat de Bose-Einstein dans des vapeurs diluées de gaz. Alors autant dire que ici il y a eu une explosion littérale de ce domaine. Pour vous donner un ordre de grandeur, ici vous voyez le nombre de papiers scientifiques qui sortent sur le sujet condensation de Bose-Einstein en 1995, vous en voyez une vingtaine et vous voyez la croissance au fur et à mesure des années, on arrive à plus de 300 en 2001 et il y en a plus de 1000 sur ces 12 derniers mois. Donc c'est dire à quel point ce domaine est véritablement en pleine expansion. Ici, vous avez un graphe sur lequel vous voyez le nombre d'atomes qui ont été condensés Et vous avez ici les dates où on a pu les observer. Et donc vous voyez que le premier condensat fait par une autre équipe que les deux premières équipes arrive qu'en 1997. On va le voir, on le commentera ici au niveau de notre conclusion. C'est des expériences qui sont très lourdes, qui sont très techniques et qui requièrent 2 à 3 ans d'investissement pour 3 à 4 personnes à temps plein avec des budgets conséquents également. La France, elle, va arriver à peu près à ce niveau-là. En 1998, on aura 2 condensats en France. Ici, bon, vous avez la liste des éléments qui ont été condensés. Mais je n'insiste pas plus sur ce point. Alors pourquoi cet intérêt ? Bon, bah, évidemment, il y a déjà l'idée de pouvoir réaliser l'une des idées d'un des pères fondateurs de la physique moderne, donc d'Einstein. Et évidemment, l'autre motivation, c'est qu'on voit ici un comportement quantique qui, comme je le disais, est collectif et il intervient à une échelle qui est mésoscopique, voire macroscopique. C'est-à-dire qu'il ne se confine plus à la physique du microscopique, la physique de l'atome, mais là, il gère carrément le comportement d'un gaz avec des dimensions macroscopiques, des dimensions de l'ordre, par exemple, on verra, pour un condensat d'une centaine de micromètres, c'est-à-dire la largeur d'un cheveu, par exemple. Donc ça, c'est, on peut dire que là, on rentre dans l'univers du macroscopique ou au moins de ce qu'on appelle le mésoscopique. Mais c'est également une physique qui va intervenir pour certains objets astrophysiques, comme on le soupçonne dans les étoiles à neutrons, alors que la densité 10 puissance 39 neutrons par centimètre cube n'a rien à voir avec celle de l'hélium liquide 10 puissance 22 atomes par centimètre cube ou celle des gaz d'alcalin sur lesquels les premiers condensats ont été réalisés 10 puissance 14 atomes par centimètre cube. Et malgré ces différences de densité gigantesques, vous voyez ici qu'il y a 25 ordres de grandeur, eh bien c'est toujours la même physique, la condensation de Poisson-Chan qui pilote la dynamique de ces systèmes complètement différents. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et bon, on espère, j'en toucherai peut-être un mot tout à l'heure, pouvoir réaliser des sources d'atomes cohérentes, soit des lasers à atomes, dans un futur relativement proche. Alors je vous ai parlé de température extrêmement basse, mais je ne vous ai pas dit comment on réalise ces températures extrêmement basses. Donc maintenant, il faut peut-être un peu éclairer cette notion. Alors, pour éclairer un peu cette notion, eh bien, on va revenir sur nos atomes. Sur nos atomes, il faut bien voir qu'en fait, les électrons, et c'est ce que dira la mécanique quantique, ont le droit à des orbites qui sont discrètes. C'est-à-dire que, ici, c'est ce que vous voyez, sous la forme de cercles, ici, concentriques. Donc ça, c'est une représentation, mais c'est pour vous dire que les orbites eh bien, de l'électron, ça ne va pas être l'orbite au milieu, c'est soit ça, etc. Comment on passe d'une orbite à l'autre ? Eh bien, une manière consiste à absorber un photon, vous avez vu, vous arrivez sur un niveau excité et vous réémettez le photon et vous retombez dans l'état fondamental. Donc le photon, c'est le grain de lumière, c'est donc l'absorption et l'émission de lumière ici dont je parle maintenant. Donc émission ou absorption, c'est finalement un changement d'orbite de l'électron provoqué par l'absorption ou l'émission d'un grain de lumière. Alors ça veut dire également que le pendant finalement de ces niveaux d'énergie discrets, eh bien ça se retrouve par le fait que si je regarde donc un spectre de couleurs ici dans le visible, il n'y a que certaines bandes noires qui peuvent être absorbées par un atome donné, d'accord ? Donc il va absorber cette lumière, et corrélativement il va émettre les lumières en question, d'accord. Donc ça, vous avez un peu côtoyé ça d'une certaine manière. Ici, vous avez une photo de la mairie de Lyon éclairée par des lampes qu'on utilise beaucoup dans les villes, qui sont des lampes au sodium et qui donnent un éclairage jaune-orangé, très sympathique pour les éclairages de nuit. Eh bien ça, on excite les atomes grâce à une décharge électrique et ils se désexcitent en réémettant cette couleur jaune-orangé caractéristique. Alors, donc maintenant, parlons un peu du refroidissement, puisqu'on a parlé d'atomes et de photons. Eh bien, on va pouvoir attaquer le problème du refroidissement des atomes. L'idée pour le refroidissement est extrêmement simple, elle est schématisée. Enfin, c'est l'un des mécanismes du refroidissement possible, comme on va voir, il y en a plusieurs. Elle est schématisée sur ce transparent. Alors, Donc sur ce transparent, vous voyez ici deux niveaux, qui sont un niveau fondamental et un niveau excité pour l'électron. Il y a une énergie que j'ai appelée oméga 0 entre les deux. Et on éclaire, on va éclairer les atomes de chaque côté, d'accord, par des photons qui ont une longueur, enfin une énergie ici, oméga L. Et supposons que notre atome soit animé d'une vitesse ici vers la gauche. Alors à ce moment-là, on peut essayer de se placer dans le référentiel de l'atome, on s'assoit sur l'atome et on va regarder ce que voit l'atome. Alors ce que voit l'atome, c'est la chose suivante, c'est que l'onde qui vient par ici, il la voit plus resserrée, soit plus aiguë en quelque sorte, que l'onde qui vient par là, qu'il voit plus grave. Ça c'est une expérience que vous avez tous faite, lorsque quelqu'un klaxonne en voiture et passe devant vous, il y a un son qui passe de l'aigu au grave, ça s'appelle l'effet Doppler. Et donc la conséquence, c'est qu'ici, il voit ses grains de lumière plus proches de résonance que cela, et il va plutôt absorber le photon ici qui vient de la gauche. D'accord ? Et donc s'il absorbe ce photon, et bien comme lorsque vous recevez une balle sur votre raquette de tennis, il va reculer. Il va reculer d'une quantité qui est petite. Typiquement, enfin, par exemple pour des atomes de rubidium qu'on utilise dans nos laboratoires, il va reculer de 6 mm par seconde. C'est ça la vitesse qu'il encaisse. Donc 6 mm par seconde, ça paraît vraiment très très peu, surtout en regard des vitesses thermiques qui sont de 300 mètres par seconde. D'accord ? Mais alors, une fois qu'il a absorbé ce photon, eh bien, il peut le réémettre, il va le réémettre un peu, mais la probabilité qu'il réémette est la même dans toutes les directions. Ça veut dire qu'en moyenne, il a perdu de la vitesse, et donc c'est ça l'effet principal. Donc un atome, c'est notre atome ici qui absorbe des photons, va donc perdre 6 mm par seconde à soustraire à 300 mètres par seconde. Alors ça paraît ridicule, sauf que si vous réitérez ce processus absorption-émission un très grand nombre de fois, par exemple 50 000 fois, eh bien à ce moment-là, vous arrivez quasiment à arrêter les atomes. Alors ça, c'est des expériences qui ont été faites dans les années 80-90. Donc il s'agit du refroidissement d'atomes par laser. Alors il va de soi que ces atomes, il ne faut surtout pas qu'ils soient en contact avec des parois matérielles, sinon ils se thermaliseraient, on ne pourrait pas les garder à des températures très faibles. Ici, vous voyez une configuration à 6 faisceaux selon les 6 directions de l'espace, configuration pour laquelle eh bien, on a réussi à refroidir comme ça des atomes simplement en appliquant donc des faisceaux de lumière selon toutes les directions de l'espace, des faisceaux de lumière contre-propageants. On crée ce qu'on appelle une friction et on appelle cet état des mélasses optiques. Alors ici, bon, quelques dessins pour vous montrer l'idée. En fait, on utilise également ici, par ces bobines, en fait, une configuration de champ magnétique et ici de faisceau laser, les atomes les plus froids étant représentés ici en bleu par rapport aux atomes les plus chauds de la vapeur atomique. Toutes ces expériences sont réalisées dans des cellules d'ultra-vide, hein, des vides, bon, ce axi, ça dit quelque chose, donc 10 puissance moins 10 millibars, c'est-à-dire 13 ordres de grandeur en dessous de la pression qu'on utilise, enfin de la pression qu'il y a dans cette pièce, par exemple. Donc ça, c'est une allure typique avec ici la cellule d'ultra-vide entourée d'un certain nombre ici donc de bobines et de faisceaux laser. Donc le cœur de la physique se passe donc à l'intersection de ces faisceaux laser. Alors, eh bien, ce refroidissement d'atomes par laser, ça avait été l'objet du prix Nobel 1997 attribué à Bill Phillips, Stephen Chu et Claude Cohen-Tanucci, qui anime donc l'équipe Atom Frost hein, du laboratoire Kessler-Brossel. Donc ces trois physiciens ont reçu ce prix pour le développement des méthodes de refroidissement et de piégeage des atomes par la lumière laser. Alors, ceci dit, enfin, si vous avez regardé le nombre de zéros qu'il y a derrière ici le zéro, je vous ai dit, jusqu'ici on a étudié comment refroidir jusqu'à 0,00001 Kelvin. Ceci dit, la température de transition, elle était beaucoup plus basse. Elle était beaucoup plus basse par 2 ordres de grandeur, d'accord, par un facteur 100. Donc, il faut trouver une méthode pour aller en dessous. Alors, pourquoi, en fait, la méthode précédente était limitée à cette température? Eh bien, c'est qu'en réémettant, un photon, eh bien, l'atome acquiert une vitesse qui ou une énergie minimale qui est ce qu'on appelle l'énergie de recul, et on ne peut pas descendre en dessous de ça avec cette méthode. Et ça, ça permet de descendre déjà les températures remarquablement basses, de l'ordre de 10 microkelvin, mais ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour avoir une distance entre particules de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de De Broglie. Et pour avoir un refroidissement ultime qui nous permette de réaliser ce qu'on veut, eh bien, voilà ce qu'on va faire. Enfin, plutôt, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui est fait désormais de manière courante dans nos laboratoires. D'abord, les atomes qui ont été refroidis par la méthode laser, pour vous donner des ordres de grandeur, la distance entre particules, c'est 100 fois la longueur d'onde de De Broglie. Donc on est encore très loin de la distance de l'ordre de lambda pour voir des phénomènes complètement quantiques à une échelle macroscopique. La méthode qu'on utilise, en fait, est extrêmement simple. On piège les atomes magnétiquement, c'est-à-dire pas par des parois matérielles, des parois magnétiques, d'accord ? Ça, c'est très important, parce que les parois ne peuvent pas communiquer de chaleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va changer la hauteur de la cuvette, ici, dans laquelle ces atomes sont confinés. L'idée étant la suivante, comme vous le voyez ici sur cette série de schémas, les atomes les plus chauds vont sortir, d'accord ? Et les atomes les plus chauds, ça veut dire les atomes qui ont le plus d'énergie que l'énergie moyenne, et l'énergie moyenne, c'est la température pour un gaz. Et donc ça veut dire qu'on va perdre des atomes et on va également diminuer la température. Et si on pousse la chose suffisamment loin, en perdant par exemple donc 19 atomes sur 20, et on arrive à diminuer la température par deux ordres de grandeur, c'est les deux ordres de grandeur qu'il nous fallait pour atteindre ce régime critique pour lequel la distance entre particules est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Ce refroidissement, on l'appelle le refroidissement par évaporation, puisque vous voyez qu'en tronquant la hauteur du potentiel qui confine ces atomes, eh bien, les atomes les plus énergétiques sont évaporés, ils sont perdus. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui se passe donc en laboratoire, cette opération est réalisé sur des échelles de temps qui varient selon les dispositifs expérimentaux de 1 à 100 secondes et selon les atomes. Le nombre d'atomes final, je dirais que c'est entre un millier d'atomes et 10 millions d'atomes plutôt. Et la température finale, c'est-à-dire la température pour laquelle on a D de l'ordre de lambda, elle est de l'ordre du micro-kelvin, voire de 100 nano-kelvin, selon le type d'expérience. Alors comment on fait pour savoir qu'on a atteint la température voulue, comment on fait, quel est le thermomètre pour connaître la température. Alors, on fait la chose suivante. On va utiliser des images par absorption. Donc j'envoie un faisceau laser sur mon nuage ici, si ce faisceau laser a une couleur qui est bien choisie, d'accord, les atomes vont absorber le faisceau laser. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir imager l'ombre sur une caméra CCD, ça c'est ce qu'on appelle donc une photo par absorption de nos atomes. Alors on peut regarder ce qui se passe, ce qu'on fait c'est, on fait la chose suivante. Si on prend des atomes qui sont dans un piège, alors anisotrope ça veut dire qu'ils sont plus confinés, vous voyez, selon cette direction que celle-ci, donc là il a la forme d'un cigare en fait, mon piège, et si je laisse mes atomes s'échapper, le nuage va exploser, d'accord. Et il va tendre, si on a affaire à un gaz classique, il va tendre vers une forme sphérique, c'est ce que vous voyez ici. En revanche, si on a cumulé beaucoup d'atomes dans l'état fondamental, c'est-à-dire si on a passé cette transition de phase du condensat de Bose-Einstein, à ce moment-là, ce qui va se passer, ça c'est le principe d'incertitude, il va y avoir plus de vitesse initiale dans la direction la plus confinée que dans l'autre direction, et il va y avoir une inversion d'ellipticité, c'est ce que vous voyez sur ces nuages. Donc ça, c'est la signature classique, l'observation d'un condensat de Bose-Einstein. Les dimensions qui sont en jeu ici, c'est 200 micromètres. Enfin, c'est donc des dimensions qui sont vraiment macroscopiques. Donc voilà ce qu'on peut dire. Et donc c'est simplement en réalisant ces images par absorption qu'on arrive à savoir si on a passé la transition ou pas. Alors on peut refaire en fait des expériences comme celles qu'on a faites tout à l'heure avec deux fentes, mais cette fois-ci sur notre objet macroscopique quantique, qui est le condensat de Bose-Einstein. Donc ce qu'on fait en fait, donc on a nos atomes ici dans le condensat de Bose-Einstein, et on crée avec ces radiofréquences deux ouvertures ici, qui sont l'équivalent des deux fentes qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez que si la température est au-dessus de la température critique, eh bien, le jet d'atomes qui va tomber par ces ouvertures qu'on a faites ici est un jet d'atomes standard, bon, qui tombe. En revanche, si on fait la même chose avec un condensat, on retrouve un phénomène d'interférence ici très marqué. Donc on retrouve des propriétés qui sont des propriétés typiques de laser pour la lumière, sauf que là vous êtes en train de regarder des atomes. Un autre comportement très amusant lié à la superfluidité consiste à mettre en rotation un condensat de Bose-Einstein. Si vous mettez en rotation un condensat, ben, si vous mettez en rotation par exemple un verre d'eau, vous savez ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un creux qui va se former, d'accord ? Et donc voilà ce qui intervient. Ici, le comportement, c'est un comportement à seuil que vous avez sur ce nouvel état de la matière, sur ces condensats de Bose-Einstein, avec l'apparition de trous où il n'y a pas de matière, ce qu'on appelle les trous de densité ou des tourbillons, qui sont des tourbillons qu'on qualifie de quantiques. D'accord ? Et vous voyez que si on augmente la fréquence de rotation, eh bien, on a tout un réseau de tourbillons qui se met en place. Ici, des réseaux avec énormément de tourbillons. Ces réseaux, on les appelle les réseaux d'Abrikosov. Abrikosov a eu le prix Nobel cette année pour ses travaux sur les supraconducteurs qui faisaient également intervenir des tourbillons quantiques dans ce type de physique. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs des liens très étroits entre, sur le plan de la physique fondamentale, entre l'hélium superfluide, la supraconductivité et nos systèmes de gaz dilués. Alors, on peut faire aussi des choses, des études naturellement beaucoup plus détaillées, je n'en parlerai pas. On peut regarder comment se forment en fait ces tourbillons un par un, quelle est la dynamique d'apparition de ces tourbillons, et ça nous permet d'affiner notre compréhension de la superfluidité. Voilà. Alors, une conclusion, plutôt que de résumer un peu ce qu'on a dit, je préfère vous montrer des images de dispositifs expérimentaux, parce que ça c'est la partie un peu cachée de mon exposé, donc on va la montrer ici. Ici vous voyez en fait des montages laser, ça c'est rien que la préparation de la lumière, parce que la lumière, comme je vous ai dit, il faut qu'elle ait une couleur bien précise pour pouvoir communiquer entre guillemets avec les atomes. Ici on a toutes les boîtes d'électronique qui servent à ça. Ici, vous avez un schéma d'une expérience, donc une photo un peu plus globale. Ici, on a le four de l'expérience, et ici, c'est le cœur de l'expérience, avec beaucoup de bobines, beaucoup de miroirs pour orienter les faisceaux. Ici, vous avez donc d'autres images de même nature, donc dans notre laboratoire au 24 rue Lomont. Un mot supplémentaire pour dire que la mécanique quantique, ben, c'est quelque chose auquel vous avez affaire dans la vie courante, entre guillemets, mais sans le savoir. En effet, tous les lasers, tout le principe des lasers, avec les multiples applications qui en ont découlé, complètement inattendues, le principe du laser, c'est 100% de la mécanique quantique. D'autres choses, bien sûr, votre ordinateur, le micro-ordinateur que j'utilise ici, repose sur des circuits intégrés dont la physique de base, le transistor, à un mécanisme qui repose sur l'utilisation de la mécanique quantique. Les horloges atomiques embarquées dans les satellites, c'est ça qui permet d'avoir une définition du temps très précise et qui est utilisée pour le GPS, donc Global Positioning System, qui vous permet de savoir où vous êtes sur la Terre avec une précision de l'ordre du centimètre qu'on pourra sans doute améliorer dans un futur proche grâce aux techniques d'atomes froids. Enfin, par exemple, d'autres choses, la dynamique du cerveau en temps réel, des images par résonance magnétique nucléaire, eh bien, c'est un exemple de choses qui impliquent différentes... Donc on utilise des gros aimants fournis par des supraconducteurs, ça aussi c'est la mécanique quantique, on analyse avec un ordinateur, ça c'est encore la mécanique quantique, etc. Donc ça c'est pour vous dire que la mécanique quantique, en fait... a vraiment révolutionné donc notre quotidien d'une certaine manière, grâce à une compréhension de plus en plus approfondie de la matière. On pourrait également parler de succès de la mécanique quantique à un niveau plus fondamental, mais là j'insisterai pas, où on arrive à avoir une précision gigantesque sur un certain nombre de quantités physiques ou à prévoir l'existence de particules. Enfin, parce qu'il faut faire peut-être un petit peu de publicité, l'un des projets donc, qu'on a en cours, donc ici dans l'équipe Atome Froid à l'ENS, serait de réaliser donc, un laser à atomes. Donc notre idée, ce serait de réaliser la partie refroidissement laser ici pour injecter des atomes dans un guide magnétique, donc avec des parois ici transverses, ils sont libres de se propager, et d'effectuer un refroidissement de type évaporatif, par évaporation, le long de l'avancée dans ce guide magnétique. Et si on y arrive, eh bien, les atomes vont se cumuler tous dans un même état et on aura réalisé le premier, enfin, du moins, un laser à atomes continu. Donc là, c'est un peu quelque chose de futurisme. Enfin, on travaille beaucoup dessus. Enfin, un transparent qui récapitule les membres du groupe Atome Froid donc à l'École Normale Supérieure. J'ai réparti sous forme de trois catégories, chercheurs permanents, postdoctorants et visiteurs, et enfin étudiants en thèse. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, l'intérêt du laser à atomes, il est de trois natures. Enfin, il y a d'abord une nature fondamentale. C'est étudier la superfluidité dans ce qu'on appelle des systèmes de dimension réduite. Donc là, c'est un premier intérêt au niveau fondamental. Il y a un deuxième intérêt, c'est qu'à l'instar des lasers, on pourrait manipuler la face. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on pourrait essayer de faire de l'impression de caractère à l'échelle nanométrique. Ce qu'on appelle la nanolithographie, donc ça pourrait être un outil possible pour faire de la nanolithographie. Le troisième aspect, c'est qu'on peut penser à des nouvelles générations d'horloges à atomes froids qui seraient basées sur ce système et dont on pourrait attendre une précision beaucoup plus grande encore du temps de la diffusion. Donc voilà.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, reprojeter l'avant-dernier transparent ? Celui-ci non compris.
Alors, attendez, on va revenir. Celui-là ?
Oui, celui-là.
Celui-là ?
Non,
celui-là.
Voilà.
Oui. Donc là, enfin, je donnais enfin, quelques succès enfin, de la mécanique quantique, notamment ce qu'on appelle l'électrodynamique quantique, qui permet de calculer donc, le spectre de l'hydrogène avec une précision redoutable. Mais également enfin, l'anomalie du moment magnétique de l'électron. Mais enfin, je ne suis pas rentré. Il s'agit peut-être d'un transparent un peu plus technique par rapport à ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle je suis passé peut-être un peu vite. Hein. Oui.
Le théorème de Hawking-Penrose, c'est que l'univers est une banque, est une singularité, et les trous noirs aussi.
Enfin, ce qui est clair, c'est que ça, ce qui est clair, c'est que ça sort enfin complètement du cadre. Donc, peut-être que, enfin, je sais pas, il y aurait peut-être des spécialistes plus compétents pour parler de ça.
Celui-là, je pense. Ça vous paraît sérieux ?
Enfin, je préfère pas me prononcer sur un sujet que je ne connais pas bien. Oui.
Jusqu'à maintenant, je croyais au zéro absolu, mais avec vos travaux, je finis par vous y croire, parce que vous descendez à 10.5, 10.7,
oui.
Vous laissez du travail pour les suivants, pour descendre encore plus bas. Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas abandonner l'idée d'une température arithmétique, linéaire, mais une idée logarithmique, ce qui fait que vous n'auriez pas de limite vers le... pourtant, vers mon infini, pourquoi pas des températures.
Oui, alors bon, ce qu'on peut dire, enfin au niveau des températures, d'abord on sait descendre plus bas hein, que ce qu'on a fait là, on sait descendre au niveau de la centaine de pico-kelvin, voilà. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on peut après, enfin il y a des gros problèmes de mesure, et ça c'est un problème énorme, c'est comment mesurer des températures aussi basses. Donc là, j'ai donné un exemple qui était lié à la chute enfin d'un nuage. Bah ça a des limites parce que ça veut dire que plus il est froid, plus il va mettre du temps avant de grossir. Et donc, bah, il va de soi que si on continue à baisser la température, il va falloir le laisser chuter d'un kilomètre, et ça, on ne peut pas faire. Donc, on se pose plutôt à ce niveau-là, enfin, des problèmes de mesure. Voilà ce qu'on peut dire. D'autres questions ? Très bien, écoutez. Ah, c'est, oui.
Comment est-ce que vous réalisez les parois magnétiques ?
Alors, les parois magnétiques, en fait, la réalisation expérimentale, c'est assez simple, entre guillemets. Il s'agit simplement d'une combinaison. Ben, on le voit ici, par exemple. Je vais prendre cet exemple. Il s'agit simplement d'une combinaison ici. Donc ici, en fait, c'est des tubes de cuivre que vous voyez là. Et donc, on fait parcourir des courants opposés. Et donc la conséquence de ça, c'est que vous savez qu'un fil parcouru par un courant engendre un champ magnétique, d'accord ? Là, ma distribution de courant par rapport à mes fils est telle qu'il y a un minimum de champ magnétique ici, et que le champ magnétique est plus important dès qu'on s'éloigne de cette ligne de minimum. Et les atomes, eh bien, on peut les mettre dans des états où ils se comportent comme des aimants. Donc ils vont avoir tendance, selon leur direction, à rejoindre ce minimum, et donc ils sont piégés de cette manière, magnétiquement. Comme ça. Donc il suffit de réaliser finalement un minimum de champ magnétique. Donc ça veut dire que certains laboratoires utilisent des aimants, par exemple, pour piéger des atomes. Ça, c'est aussi également une possibilité. On utilise plus couramment, nous, on a plus cette culture, donc des fils parcourus par des courants, tout simplement. Voilà. Bien, écoutez. Merci à vous.